Chapitre 5. Qu'est-ce qu'elle a mis dans notre café d'après toi ? Demanda Agatha. Il avait une drôle d'odeur.
Je crois qu'elle a uriné dedans,
répondit James.
En tout cas, le mien sentait le pipi.
Oh James, ça va trop loin là. Elle ne ferait pas une chose pareille quand même, si ?
Mais pourquoi pas ? Si tu savais ce dont les femmes sont capables, Agatha.
Tiens, la dernière fois que j'étais à Barcelone, Maria...
Peu importe, cette histoire est sans intérêt.
C'est qui cette Maria ? Oublie ! À propos du pasteur, ce n'est pas facile d'obtenir une paroisse tranquille dans les Cotswolds. Je serais curieux de savoir comment ça s'est passé dans son dernier poste.
Tu as parlé de l'East End, il me semble. On devrait trouver où exactement et y faire un saut demain.
Agatha acquiesça, tout en espérant que Charles chercherait à lui rendre visite et trouverait porte close. Agatha s'assombrit en voyant les manières de James s'adoucir en présence de la jolie Molly. Elle demanda à cette dernière si elle avait appris quelque chose concernant la vie amoureuse de Margaret Darby.
« J'ai posé la question autour de moi, mais personne ne semble être au courant. »
« Elle était fiancée à un homme qui vit à Ancombe, mais elle l'a laissé tomber. »«
Ah bon ? Sacrée Margaret !»«
Je me demandais, enchaîna James, dans quelle paroisse travaillait votre mari à Londres ?»«
À Saint-Evrilda, près des anciens docks, l'East Indian Dock plus précisément. »
A-t-il eu des difficultés à obtenir sa nouvelle affectation ?
Non, bien au contraire. Pardonnez-moi, j'aimerais beaucoup poursuivre cette conversation, mais mes obligations paroissiales sont sans fin. Ils prirent congé. Tu crois qu'elle a tout inventé ?
Demanda Agatha.
Je vais vérifier.
James prit son smartphone. Alors.
Ah voilà.
Evrilda, sainte du 7e siècle, originaire du Yorkshire. Pourquoi une sainte du Yorkshire donnerait-elle son nom à une église dans le sud du pays ? Attends, je lis. Ah, un bateau nommé le Saint-Evrilda a été pris dans une énorme tempête, mais l'équipage et la marchandise en sont miraculeusement sortis indemnes. L'armateur, un certain Josiah Sines, a fait ériger une église pour rendre grâce à Dieu. Elle se trouve sur Pennyfarthing Lane. Molly a dit que c'était un quartier malfamé.
Malfamé ? Je croyais que l'East End s'était débarrassé de ses problèmes depuis que les Chinois et les Russes avaient fait main basse sur Londres.
À quelle heure veux-tu qu'on parte ? Un peu après 9h, ça nous évitera les embouteillages.
Agatha dit au revoir à James et fila à son agence pour informer son équipe de l'avancée de ses recherches. Il s'y retrouvait généralement en fin de journée. En arrivant, elle constata avec consternation que Patrick Mulligan était penché au-dessus d'une énorme boîte de donuts à la confiture. Tony, qui affichait une silhouette parfaite, était juché sur un bureau. « C'est mon troisième !» dit-elle en lui montrant un beignet bien entamé. « Ils viennent d'une boulangerie qui vient d'ouvrir dans le centre. »«
J'en ai déjà mangé aujourd'hui !»
Agatha les informa de la mort suspecte de Mrs. Start et de son intention d'aller à Londres avec James le lendemain matin. « Oh, James, si seulement il pouvait se remarier ! Charles était trop inconstant !» Si une jeune première fortunée croisait son chemin, il la quitterait sur le champ. Agatha sentit le regard de Tony sur elle. La jeune femme était probablement la seule personne à se douter qu'Agatha se sentait souvent seule et peu sûre d'elle-même. « Phil !» dit Agatha en se tournant vers son photographe. « J'aurais besoin de photos des personnes liées à ce meurtre. Je vais vous taper leur nom avec leur signalement. Il y a encore pas mal de journalistes dans le coin. On ne vous remarquera pas spécialement, mais soyez discrets. » Devinant que Simon était en colère, comment s'en étonner, elle demandait toujours à James ou à Charles de l'accompagner lorsqu'elle avait des missions intéressantes, condamnant son jeune collaborateur aux ennuyeuses affaires de divorce ou d'adolescent fugueur. Elle s'empressa de l'inclure. « Simon, vous pouvez l'accompagner. Inutile de dire que vous êtes détective. Jouez plutôt les jolis cœurs et voyez ce que vous pouvez trouver sur Margaret Darby auprès de ces dames. Si nous résolvons ce meurtre, je pense que nous avancerons sur les autres. » En tapant la liste pour Phil, elle songea qu'avec une femme aussi jolie que Molly dans les parages, il y avait un risque que Simon crée des problèmes. Zut ! À vouloir ménager sa susceptibilité, elle avait oublié qu'il pouvait devenir complètement obsessionnel. Heureusement que Patrick et Phil, l'un sexagénaire, l'autre septuagénaire, s'estimaient simplement heureux d'avoir un emploi. Elle imprima le document en plusieurs exemplaires.
« Vous ne m'avez toujours pas donné vos notes de frais !»
dit Mrs. Friedman sur un ton de reproche. « Demain, promis !» assura Agatha. La faim lui tiraillait le ventre, mais elle s'obligea à penser que ce devait n'être que des gaz.
Il fallait absolument compenser les donuts qu'elle avait avalés dans la voiture. Ce soir, à la diète.
James et Agatha étaient finalement convenus de prendre le train à Morton in Marsh, le trajet en voiture jusqu'à Londres se résumant à une succession de bouchons.
« L'église est à Antle Green, » annonça James.
« Jamais entendu parler de ce quartier, » maugréa Agatha. « Pourtant, je connais Londres comme ma poche. »
« C'est à côté de Lewisham. Y cohabitent des immigrés africains, des blancs qui touchent le chômage et leurs progénitures qui y volent ou sortent de prison. »
Rien d'étonnant à ce que le pasteur et sa femme aient voulu mettre les voiles.
De là à s'enterrer dans les Cotswolds, c'est bizarre.
Comment s'appelle l'église déjà?
T'as oublié?
Sainte Everilda. Je ne vois pas l'intérêt d'emmagasiner ce genre d'informations, répliqua Agatha avec tout l'aplomb des ignorants. Ils descendirent à Paddington. Devant l'insistance d'Agatha pour prendre un taxi, James finit par céder, non sans avoir essayé de lui faire comprendre qu'ils allaient du coup subir les embouteillages jusque-là évités. Évidemment, ce fut le cas. Le fait qu'Agatha paie le taxi, ne s'agissait-il pas de son affaire et de ses notes de frais, ne parvint pas à adoucir James. Il estimait que les hommes devaient être aux commandes, y compris des cordons de la bourse. Le taxi s'arrêta dans une rue étroite où la moitié des bâtiments avaient été rasés.
« Ils font le ménage !» dit le chauffeur. « Vous voulez que je vous attende, ma petite dame? Ça craint par ici !»«
Non, merci !» refusa James d'un ton ferme avant qu'Agatha puisse ouvrir la bouche. L'église se dressait entre des maisons démolies et des immeubles condamnés. On l'aurait dit sortie de terre plutôt que bâtie par l'homme. Ses murs, couverts de suie, n'avaient manifestement pas été nettoyés depuis des décennies. Elle possédait une tour carrée où quelqu'un semblait être monté pour la dépouiller de ses feuilles de plomb. Sa vieille porte en chêne était solidement fermée.
« Je ne vois pas le presbytère, » constata James.
« Il n'y a plus qu'à chercher. »
Des lambeaux de nuages noirs et menaçants couraient dans le ciel. Une bourrasque de vent s'engouffra dans la rue, plaquant un journal contre le pantalon de James. Il s'en débarrassa, puis regardant devant lui, dit «
J'ai l'impression qu'il y a une petite épicerie au bout de la rue. Tentons notre chance. »
Des barreaux avaient été installés aux fenêtres et une caméra de surveillance pivotait lentement au-dessus de la porte. Derrière le comptoir se tenait une énorme femme vêtue d'un sari aux couleurs vives. James lui demanda où il pourrait trouver le pasteur.
« Juste à côté, mon lapin !»
fit-elle avec un accent cockney très prononcé.
« Au numéro 5. Pourquoi? Vous vous mariez ?»«
Non. » « Allons-y, Agatha. »«
Dites-moi, » commença cette dernière, ignorant James. « Le précédent pasteur, vous le connaissiez ?»«
Sa femme avait l'habitude de venir. Pauvre biche, je la tuerais, moi, les salauds qu'on fait ça. »«
Fais quoi ?»
La femme regarda Agatha des pieds à la tête, une lueur d'intelligence dans les yeux.
« C'est pas facile de gagner sa croûte par ici. »«
Votre devoir de citoyenne, vous, »
commença James.
« 50 livres !»
l'interrompit Agatha d'une voix pleine d'assurance.
« Vous êtes une grande dame, envoyez !»
Elle fit disparaître le billet dans son corsage XXL.
Ça s'est passé l'année dernière. Elle rentrait chez elle et les gars du gang de Gorley Street lui sont tombés dessus. La pauvre. Ils l'ont violée, poignardée, laissée pour morte. Mais un type en voiture l'a vue, il a appelé les secours et la police. Ils ont tous été condamnés.
« Je n'ai rien lu à ce sujet sur Internet, » fit remarquer James.
« Le pasteur, il avait des amis haut placés, d'après ce que j'ai entendu. Ils se sont arrangés pour que le nom de sa femme n'apparaisse pas dans les journaux. »
Agatha la remercia et s'apprêtait à sortir de cette épicerie incroyablement bien approvisionnée quand elle vit une vitrine réfrigérée contenant des donuts à la confiture en promotion.
« Ce n'est pas le moment, »
aboya James en voyant Agatha ouvrir la vitrine dans un état proche de la transe.
« On t'a pas sonné ?»
Elle choisit 6 donuts qu'elle glissa dans une boîte en carton et alla payer. Le vent, qui entre-temps avait forci, s'engouffrait avec férocité entre les immeubles déserts en gémissant telle une banshee qui annonce la mort. Le presbytère s'élevait au milieu d'une parcelle par ailleurs vide, les maisons attenantes ayant été rasées. Ils sonnèrent à la porte. Au bout d'un moment, une voix jaillit d'un petit microphone fixé sur le mur, près de la sonnette, exigeant de savoir ce qui les amenait. Agatha déclina leur identité. Pour toute réponse, ils entendirent bientôt le bruit de plusieurs serrures et autres verrous, puis un homme, grand et musclé à l'allure bestiale, apparut sur le seuil.
« Monsieur le pasteur ?»«
Je suis son garde du corps. Entrez.
On a fait l'armée ensemble avec Yann. Merci pour les donuts. Je vais les poser dans la cuisine.
À la grande consternation d'Agatha, il la débarrassa de la boîte d'un geste abrupt. Il les précéda dans un couloir, puis ouvrit une porte. Le pasteur, assis derrière un bureau, se leva pour les accueillir.
« Je me présente, Yann Ferguson, »
dit-il avec un léger accent écossais.
« Que me vaut la visite d'une détective privée ?»
La cinquantaine, il avait une épaisse chevelure blanche et un visage qu'Agatha qualifierait de banal. Elle évoqua les meurtres et leurs interrogations concernant le précédent pasteur. Pourquoi avait-il quitté le quartier et comment s'était-il assuré une affectation dans les Cotswolds ?«
Je n'ai rien à vous dire sur le sujet, » répondit-il froidement. « Johnny va vous raccompagner. »
« Nous sommes au courant pour le viol, » tenta Agatha.
« Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? J'ai dit fichez le camp !»« Vous avez entendu ?»
ajouta Johnny en entrant dans la pièce.
« Ne m'obligez pas à vous jeter dehors !»
Ils n'eurent d'autre choix que de se laisser escorter jusque dans la rue venteuse.
« Écoute, on a ce qu'on voulait, » la consola James.
« Trouvons un taxi, un bus ou un métro. On pourrait peut-être retourner voir cette gentille dame indienne et... »
« Non, Agatha, les donuts, c'est terminé. »
« Ah oui ?
Tu te prends pour mon patron, peut-être ?»
Elle tourna les talons et se dirigea vers l'épicerie.
« Débrouille-toi pour rentrer dans ce cas !» cria James en s'éloignant d'un pas raide.
L'instant suivant, conscient qu'il ne devait pas laisser Agatha seule dans pareil quartier, il fit demi-tour et découvrit avec horreur qu'un jeune menaçait Agatha d'un couteau sous le regard vigilant d'un autre.
« Je vous ouvre mon sac !» dit Agatha d'un air las.
Mais elle dégaina une bombe lacrymogène et aspergea ses assaillants en plein visage au moment où James arrivait en courant.
« J'appelle la police !»« Non, on se taille !»
Elle s'élança dans la rue, juchée sur ses bottes à talons hauts, suivie de près par James. À son grand soulagement, elle déboucha sur une rue animée. Sur le trottoir d'en face, une bouche de métro. James la rattrapa et la saisit par le bras.
« Pourquoi ne pas appeler la police ?»«
Je les ai aspergés de lacrymo !» dit-elle haletante. « C'est illégal, je crois.
Quant à Molly,
je la plains vraiment, mais je ne vois pas de lien entre ce qui lui est arrivé et les meurtres. Tiens, un taxi.
Hé, taxi !»«
Il n'y a que toi pour aller à un taxi à deux pas d'une station de métro, » grommela James, tandis que le chauffeur démarrait. «
À croire que tu adores les bouchons. »«
Arrête de râler, je réfléchis. » »« Bon, d'après toi, Rory qui a des amis au placé, ça tient la route comme info ?»«
Ta gouverne ?» Son grand-père était archevêque de York. Son oncle possède le Morning Herald. Sa mère est députée de Harrington. Son père général de brigade au sein des Blues and Royals. Et sa sœur Pénélope, l'épouse du duc de Hatcher.
Mais de nos jours, l'établishment n'a plus vraiment le pouvoir.
Et c'est seulement de t'opposer à ces gens-là pour voir.
Écoute, nos journalistes sont pitoyables. Mais pas un ne voudrait être le pourri qui divulgue le nom de Molly dans une affaire de viol.
Au moment des faits, je veux bien. Mais maintenant, alors qu'ils couvrent tous ces affaires de meurtre et que leur plus grande crainte, c'est que ce soit la presse étrangère qui sorte cette histoire en premier.
Quel affreux cynique tu fais. Et ce taxi qui roule à deux à l'heure, on aurait dû prendre le métro. Oh mon Dieu! James ouvrit la portière, s'élança sur le trottoir, acheta un magazine à un kiosque et rattrapa la voiture arrêtée à un feu rouge.
Tu comprends le français?
En dehors des menus, pas grand-chose à vrai dire.
« Regarde !»
James lui tendit le magazine. À la une, un portrait de Molly visiblement bouleversé.
« Traduis-moi le titre, enfin !» dit Agatha.
D'un enfer à un autre, le cauchemar de la femme du prêtre.
« Rory n'est pas prêtre, il est pasteur !»«
Tu sais, les Français !»« Oh, pauvre Molly, elle va encore se faire harceler par la presse !» Agatha passa le trajet du retour à réfléchir. Tandis que le train tressautait sur les aiguillages en quittant la gare de Paddington, elle songea à toutes les fois où, à l'adolescence, elle avait espéré qu'un jour, elle se réveillerait, miracle, dans la peau d'une fille jolie et glamour. Plus tard, alors qu'elle travaillait dans la communication, elle avait eu l'occasion de représenter des femmes célèbres, incroyablement belles, et constater que la majorité d'entre elles finissaient par servir de faire-valoir à leur époux et craignant que leur première ride les condamne au divorce, se lançaient dans une lutte interminable et fort coûteuse contre la vieillesse. Elles étaient légions dans les Cotswolds. James s'était endormi. Il l'avait aimé autrefois. Mais peut-on parler d'amour quand l'homme décide pour vous que le travail et les mini-jupes c'est terminé ?
Et puis, à l'opposé, il y avait Charles, qui l'avait mise dans son lit à plusieurs reprises. Un amant hors pair, mais de peu de mots. Dans sa bouche, jamais de déclaration passionnée, même si un jour, il l'avait demandé en mariage. Mais ça n'aurait pas marché, avaient-ils décidé ensemble.
Qu'est-ce que c'est que cet air renfrogné ? Demanda James en se réveillant.
Je pensais à Molly, c'est tout.
Elle est sûrement partie se réfugier en Écosse dans sa famille.
Elle est écossaise ? Je ne savais pas.
Elle a fréquenté le Cheltenham Ladies College, d'où l'absence d'accent.
Sa famille est dans quel domaine ?
Ils ont d'abord fait fortune grâce à l'esclavage, puis se sont lancés dans le thé en Inde et ensuite dans le rail.
Je ne comprends pas, dit Agatha médusée. Avec tout cet argent, elle aurait pu rénover cet horrible presbytère.
Ils viennent tout juste de s'installer, et je te rappelle que c'est une femme qui a trois frères. La fiducie familiale doit lui verser de l'argent, mais pas non plus des mille et des cents.
C'est vrai qu'elle s'habille dans les enseignes de grande distribution, mais je croyais qu'elle cherchait à être tendance. Il paraît qu'en matière de prêt-à-porter, les supermarchés sont du dernier cri. Tu me donnes l'impression de ne pas avoir fait mon travail minutieusement, James. J'ignorais tout ce que tu viens de me dire. Mais pourquoi diable a-t-elle épousé un pasteur affecté dans un quartier sordide de Londres de surcroît ? Par amour, Agatha, ça te dit quelque chose ?
J'en ai un lointain souvenir.
Agatha ferma les yeux et fit mine de dormir jusqu'à ce que le sommeil devienne réalité. Elle ne se réveilla que lorsque le train entra en gare d'Oxford, où ils prirent la correspondance pour Morton in Marsh. De retour à Carsley, elle déclina l'invitation de James à boire un verre. Elle gratifia ses chats de caresses et de croquettes, puis s'assit devant son ordinateur. Oublie le meurtre du policier et de Mrs. Tart, si elle a effectivement été tuée, et concentre-toi sur Margaret Darby. Elle avait quitté John Harcourt. Pourquoi ? Essayait-elle de rivaliser avec sa sœur ? Avec trois mariages à son actif, Laura Darby avait placé la barre drôlement haut. En même temps, rien de plus facile que de se trouver un mari pour une femme qui a de l'argent. Margaret était peut-être une romantique à la recherche du chevalier servant. À creuser. Quel âge avait-elle déjà ?
64 ans.
64 ans et toujours vierge, soupira Agatha.
De qui tu parles ? Demanda une voix derrière elle, lui arrachant un cri perçant. Aggie, c'est moi, Roy ! Ta femme de ménage m'a laissé entrer et je me suis endormie sur ton canapé. Doris sait que nous sommes de vieux amis.
Roy Silver avait travaillé pour Agatha lorsqu'elle dirigeait sa propre agence de relations publiques. Nul doute que seul son insatiable besoin de publicité pouvait expliquer sa visite. Il avait compris depuis longtemps que le cocktail Agatha Raisin Meurtre était l'assurance d'une excellente couverture médiatique et il courait après la notoriété avec autant d'enthousiasme que ses propres clients. Si certains, comme Agatha, se désolent à tort ou à raison de ne pas être gâtés par la nature, d'autres, comme Roy, sont fascinés par leur propre reflet quand ils se regardent dans un miroir. Fluet et efféminé, il portait une veste en dénim et un jean troué au genou.
« Depuis quand tu donnes dans le style rétro ?» demanda Agatha.
« Un jean déchiré, carrément. »«
Il fait son grand retour, et la mode est au pas cher. Passons. Que sais-tu sur ce meurtre ? Ou ces meurtres ? Il faut absolument que tu me présentes cette femme de pasteur. »«
Tu plaisantes ? Elle a dû quitter le pays alors qu'il est. »«
Mais je dois absolument visiter ce village. On peut y aller demain, s'il te plaît. »«
Tu ne devrais pas être au travail ? Attends un peu. » Ton patron a un cas difficile et il a besoin de mes lumières, alors il t'envoie ici et toi, tu décides de faire d'une pierre deux coups. C'est ça ?
Tu pourrais quand même m'offrir un verre, non ?
Sers-toi. Pour moi, ce sera un gin tonic. Agatha attendit son verre, alluma une cigarette et tourna sa chaise de bureau pour faire face à Roy.
Oui, je fume encore et ne t'avise pas de me faire la leçon. Je t'écoute. Tu as entendu parler de Pamela Forwiz ?
Comme tout le monde. C'est cette demoiselle qui profite de la vie en attendant d'hériter de la chaîne de magasins de papa. Je suppose qu'elle s'est mise dans de beaux draps.
Quelqu'un a vendu des photos d'elle au magazine Husky. On la voit au lit avec deux hommes.
Ils ont confirmé que c'était eux ?
Non.
Bien. Tu l'appelles et tu lui dis d'ouvrir un centre de soins pour les malades du sida.
Ce n'est plus très accrocheur le sida maintenant qu'on n'en meurt plus.
Sans compter que cette année, Bill Gates est déjà passé par là avec ses 5 milliards donnés à la recherche. Un homme respectable qui n'a pas besoin des gens de notre espèce pour gérer ses scandales. Tu ne m'aides pas là, réfléchis. Je sais. La santé mentale. C'est le nouveau cheval de bataille de Kate et William. De Harry aussi d'ailleurs. Encourage ton héritière à financer l'ouverture d'une clinique psychiatrique spécialisée dans les cas que l'hôpital public ne peut pas traiter. Et fais en sorte qu'un membre de la famille royale soit présent le jour de l'inauguration. Tu as les photos? Je m'en doutais. Montre. Roy les lui passa. On ne voit pas vraiment son visage. Le plus embêtant, c'est la personne qui les a vendues, du coup. Comment sont-elles arrivées jusqu'à toi? Roy baissa la tête. Agatha sourit d'un air entendu. Tu as payé quelqu'un pour entrer en douce dans les bureaux du magazine et les voler? De quoi tu t'inquiètes alors? Sans les photos, ils n'ont plus d'histoire à vendre. Ah, je vois. C'est le photographe qui pose problème. Le magazine refuse de le payer. Il veut porter plainte. Où les a-t-il prises, ces photos? Chez la fille, à Chelsea. Il a dû s'introduire dans son appartement pour installer son matériel. Pas forcément. De nos jours, on peut acheter un tas d'objets équipés d'une caméra. Un réveil, par exemple. C'est une idée. Donc, imaginons qu'elle reçoit un réveil en cadeau, elle le met sur sa table de chevet, je ne sais trop comment, le photographe, comment il s'appelle? Barry Jinson. Bien, donc, le lendemain de la partie de jambes en l'air, dont il a été informé par un des deux hommes, il sonne chez elle, raconte que le réveil lui a été livré par erreur, s'excuse et blablabla. Elle le lui rend et le tour est joué. Appelle-la. Vois si elle a reçu un cadeau bizarre qu'on lui a réclamé ensuite. Et isole-toi dans la pièce voisine. Je déteste le ton obséquieux que tu prends avec tes clients. L'estomac d'Agatha gargouilla. Elle avait de nouveau faim, mais il était trop tard pour aller dîner dehors. Dans les Cotswolds, les restaurants fermaient à 21h30. Bien sûr, s'ils n'étaient pas regardants sur le contenu de leur assiette, ils pouvaient toujours pousser jusqu'à un resto-route des environs. « Tu sais quoi ?» fit Roy en revenant. « Elle a reçu une magnifique poupée de collection qu'elle a disposée sur une chaise dans sa chambre. » Comment l'expéditeur pouvait-il être sûr qu'elle la mettrait là ? Pur coup de chance ! Ou alors il comptait sur le fait que le complice du fameux Barry pourrait si besoin la changer de place. Elle l'a toujours, cette poupée ? Non, elle ne l'avait plus dès le lendemain matin. Zut ! Il faut identifier l'expéditeur et s'occuper de lui. Et ces hommes avec qui elle a couché, elle les connaissait ? Pas les deux. Il y avait Harold Peterson, un catcheur. Il est parti aux États-Unis et n'est au courant de rien. Le magazine n'a jamais cherché à le contacter. L'autre s'appelle Frank Abouti. Je me suis renseignée sur son compte, il gère des fonds spéculatifs. Un financier? Bon, et qu'est-ce qu'il a contre elle? Oh, tu sais quoi, je m'en fiche. Je n'ai pas le temps de travailler gratuitement.
Moi, oui,
dit Charles en pénétrant dans la pièce d'un pas nonchalant.
Ma parole, tu entres chez moi comme dans un moulin, toi!
Mais puisque tu es là, assieds-toi. Roy va te dire de quoi il s'agit. Charles écouta attentivement, puis il dit.
Pour votre gouverne, Abouti a un fils de 22 ans. Pamela et lui étaient fiancés et elle l'a laissé tomber. Roy, vous n'avez pas été très loin dans vos recherches. Laissez donc faire l'expert et prenez-en de la graine. D'abord, donnez-moi le numéro de téléphone de ce photographe. Bien. Agatha, je veux que tu allumes la télé. Il rediffuse cette vieille série policière de Bill. Dès qu'il y a un passage avec des bruits de commissariat, tu montes le son. Roy, à la seconde où vous m'entendez lui demander d'appeler Scotland Yard, vous prenez votre téléphone et vous appelez un de vos contacts, un dont vous savez qu'il ne répondra pas. Quand ça sonne, approchez votre mobile du mien.
Charles composa un numéro et attendit, puis, avec un accent écossais très prononcé, dit
« Mr. Barry Jinson ?»« Oui, qu'il demande ?» Inspecteur Henry Channing, unité de lutte contre les crimes de haine. Pardon. Ah, d'accord. Vous avez le numéro de Scotland Yard. Oui, très bien. J'attends votre coup de fil.
Au lieu de raccrocher, il fit signe à Roy d'approcher avec son téléphone qui sonnait, compta jusqu'à 5, puis dit, avec un accent de l'Essex,
New Scotland Yard.
Je souhaiterais parler à l'inspecteur Henry Channing,
demanda Barry Jinson.
Je vous le passe.
À l'écran, deux policiers discutaient avec en fond sonore des téléphones qui sonnaient. Agatha monta le son.
Mr. Johnson?
Oui? Charles articula silencieusement le mot « magnéto ». Aussitôt, Agatha prit son magnétophone dans son sac, un appareil aussi discret que puissant dont elle ne se séparait jamais, et le mit en marche.
« Bien, je dois vous dire, monsieur, que nous avons la preuve que vous avez été approché par un certain Mr. Appetit pour prendre des photos compromettantes d'une femme dont je tairai ici le nom, et ce, dans le seul but de nuire à sa réputation. »«
Ce n'était pas mon idée, » s'écria Barry. « Et puis, il s'agissait seulement d'une farce. »
Le problème, c'est que vous avez ensuite vendu les photos au magazine Husky.
Ils les ont perdues. Elle n'a subi aucun préjudice. Je vous le répète, c'était une farce. Nous ne l'importunerons plus, ni lui ni moi. Plus aucun contact, vous avez ma parole.
Votre parole, si ça pouvait suffire. Je vais en toucher de moi mon supérieur, juste pour que vous le sachiez. Miss Pamela a fait un don très généreux au profit des veuves et orphelins de la police. Je vous recontacte.
Charles raccrocha.
Qui sait, ça marchera peut-être. Bon, et c'est meurtre alors. Où en es-tu, Agatha?
Nulle part, répondit-elle, préférant ne pas parler du viol de la femme du pasteur devant Roy. Il connaissait beaucoup de monde et était incapable de tenir sa langue. J'ai faim. On ne trouvera rien d'ouvert à part une gargote sur l'autoroute, mais j'irai bien manger un morceau. Ça vous dit?
J'ai dîné, répondit Charles. « Mais je t'accompagne volontiers, je prendrai un café. »«
Puisque tu le proposes, » dit Roy, « j'ai envie d'un bon petit déjeuner. Ils en servent à toute heure, non ?» Tandis qu'ils enfilaient leur manteau, le téléphone de Roy sonna. Il devint tout pâle et sortit de la pièce en disant
« Oh mon Dieu, c'est elle !»
Agatha et Charles patientèrent dans l'entrée.
« Pourquoi il continue ?» demanda Charles. « Je parle de la com. Il t'appelle tout le temps la rescousse. »
L'attrait du battage médiatique, sans parler de la fascination qu'il a pour les célébrités. Travailler dans les relations publiques, c'est avoir un pied dans la porte.
Je crois qu'on ferait mieux d'enlever nos manteaux,
dit Charles. L'expression radieuse de Roy, lorsqu'il les rejoignit, mit fin à leur inquiétude.
C'était Pamela. Barry l'a appelée en larmes et lui a juré par tous les saints du paradis que personne ne ferait la moindre révélation. Je lui ai raconté que j'avais piégé Barry en me faisant passer pour un inspecteur de Scotland Yard. Résultat, elle trouve que je suis l'homme le plus intelligent de la planète. Quand je lui ai suggéré d'ouvrir une clinique psychiatrique pour se faire une réputation à la Lady Di, elle m'a dit que j'étais merveilleux et qu'elle voulait que je m'occupe de tout ce qui touche à son image à l'avenir. Du coup, mes petits chéris, je rentre à Londres illico. Un génie! Je suis un génie! Oh, je m'épate moi-même parfois.
« Ce qui m'épate, moi, c'est le toupet avec lequel vous vous êtes approprié mon idée !»
protesta Charles.
« Je pouvais difficilement lui dire que j'avais parlé de sa vie sexuelle avec des amis, non ? Allez, j'y vais !»
Agatha et Charles se rendirent au Burger Basement, situé sur la rocade voisine. Contrairement à ce que son nom indiquait, l'établissement n'était pas en sous-sol. Agatha dévora un cheeseburger et des frites, puis dit en soupirant
« Il faut vraiment que je me mette au régime !»
C'est le sport qui compte.
Tu continues ton cours de pilates?
Non. Quand j'y allais, je me trouvais tellement héroïque qu'après, je ne pouvais pas m'empêcher de me récompenser à coups de tablettes de chocolat.
Bon. Revenons à ton affaire. Le pasteur semble avoir manœuvré pour que les journaux passent l'agression de sa femme sous silence. Imaginons. Margaret Darby découvre ce qui lui est arrivé. Par jalousie, après tout, Molly est très belle. Elle la nargue avec ça. Sa policier en trouve la preuve quand il farfouille dans sa maison. Il faut aussi s'en débarrasser.
La mort de Mrs. Tart ne colle pas avec ses hypothèses. Je suis prête à parier qu'il faut creuser la piste d'un homme qui en aurait eu après l'argent de Margaret. On ne sait pas si c'est la sœur qui va hériter. Je vais demander à Patrick de trouver le nom de son avocat.
Pourquoi ne pas le lui demander, tout simplement? Où vit-elle?
Aucune idée. Tout ce que je sais par Patrick, c'est qu'elle s'appelle Laura Darby et que lorsqu'elle est venue, elle a parlé avec Wilkes et a passé la nuit au Georges, donc elle n'est pas du coin. Je téléphone à Patrick tout de suite. Patrick informa Agatha qu'il connaissait à présent son adresse. Elle vivait à Oxford, dans le quartier de Jericho, au 4 Bentley Lane, plus précisément. «
Pourquoi Jericho ? » fit-elle après avoir raccroché. «
C'est étrange comme nom pour un quartier d'Oxford.
Parce qu'à l'origine, il se trouvait à l'extérieur des remparts et accueillait des voyageurs venus de loin. Dans les années 50, c'était un quartier chaud où sévissait la prostitution. Tout a failli être rasé, mais une campagne de préservation du patrimoine a sauvé ce qui pouvait l'être et maintenant, c'est un endroit très prisé. Je t'accompagne? À moins que James n'ait prévu de le faire.
Non? Je ne lui ai pas demandé.
Il est tard. Ramène-moi ma voiture et je te retrouve à quoi?
9 heures? Très bien.